Alors, je tiens tout d'abord, après cette présentation, je tiens à remercier donc l'équipe organisatrice de ce stage de formation de formateurs, donc Cynthia Frenet, Marie-Odile Mersandoz et Patrick Picard, pour leur invitation à participer à ces deux journées, qui pour moi ont déjà été très enrichissantes par rapport à la discussion à la table ronde de ce matin et donc à ce qui va suivre. Alors, la demande qui m'a été faite, effectivement, dans la perspective qui est la mienne, c'est-à-dire vraiment des sciences du langage, c'est d'aborder la facette de langue trait d'union S, langage, à l'entrée de l'école maternelle, durant la prime scolarisation et puis par la suite, et de problématiser la socialisation langagière en plusieurs langues pendant l'enfance, la petite enfance, en lien avec cette entrée à l'école maternelle, ce qui interroge la manière dont l'enfant peut être accueilli, devrait être accueilli, n'est pas accueilli avec ses langues à l'école. Donc, le cadrage de ces deux journées qui nous rassemblent rappelle que la scolarisation des enfants jeunes est un axe fort du ministère de l'Éducation nationale dans le souci de réduction des inégalités scolaires, sachant qu'elles se créent effectivement très tôt, et le rôle des compétences langagières dans la réussite scolaire y est déterminant, pour reprendre notamment récemment Marie-Zadon Maillet 2012, ou encore le rapport du langage à l'école maternelle 2011. Donc ma perspective est aujourd'hui celle des jeunes enfants qui ont grandi dans une autre langue que le français avant leur entrée à l'école, qu'ils soient nés en France ou récemment arrivés sur le territoire, ou bien qui grandissent dans les deux langues. Donc c'est-à-dire dans deux langues dont le français voire plus que deux langues. Donc des situations qui sont à différencier quelque peu, comme le rappelle aussi le texte le langage à l'école maternelle, comme on le verra tout à l'heure. Je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux de recherche ainsi que sur les derniers rapports institutionnels qui portent sur l'école maternelle, dont le rapport 2011 « Le langage à l'école maternelle » et le rapport de l'inspection générale sur l'école maternelle, qui symbolise à mon sens un tournant institutionnel important dans la façon d'envisager cette socialisation langagière plurilingue et sa prise en compte dans le contexte scolaire de la petite enfance. En maternelle, actuellement, comme vous le savez, les instructions officielles ne prévoient pas la mise en place de dispositifs d'accueil ou de soutien linguistique particuliers pour ces enfants, car ils sont perçus comme capables d'apprendre la langue de scolarisation rapidement, en immersion, dans un cadre jugé apte à mettre en place cet apprentissage de la langue seconde, qui est le français. Donc, ce qui est rappelé par la circulaire 2012 concernant la scolarisation des enfants allophones. Donc cela implique pour les équipes éducatives de pouvoir réellement proposer ce cadre, tant au niveau de leur prise en charge dans les classes que de leur accueil lors de l'entrée en maternelle, qui constitue ou peut constituer, constitue souvent, une rupture affective, linguistique et culturelle forte, pour reprendre Giampino et Guyon 2012. Dans cette perspective, la question est de savoir comment penser un accompagnement ajusté de la part des adultes, parents et enseignants, et comment créer des espaces de pensée de l'altérité dans l'espace scolaire, pour reprendre Moreau 2012, pour favoriser la construction du bilinguisme dans le respect de l'identité de l'enfant et de son développement aussi dans la langue de l'école. Et comment penser également l'accueil des parents. Alors, mon exposé va se présenter comme cela. La partie 1 permettra de recadrer quelques éléments théoriques à propos de la socialisation langagière en milieu plurilingue. La partie 2 sera l'occasion de vous présenter en fait les dynamiques en cours, notamment un projet de recherche action qui est mené dans l'Académie de Franche-Comté. Et auquel justement Marise Piguet connaît bien et sur lequel elle a participé en fait au tout départ sur la circonscription de Saint-Claude. Le point 3, je ne suis pas sûre de pouvoir l'aborder aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, je laisserai effectivement aussi en bibliographie le PowerPoint qui sera à votre disposition. Et donc, il y a beaucoup de ressources bibliographie qui vous seront données. Alors, pour commencer avec les éléments théoriques à propos de la socialisation langagière en milieu plurilingue, d'abord, reprendre finalement la différence entre langue, langage et langue, trait d'union S. Donc, avec un rappel sur l'âge finalement du langage lors des premières années, alors entre 0 et 6 et 7 ans approximativement. Là, je vais m'appuyer aussi sur les travaux de d'Algalian 2000, hein, donc sur son ouvrage Enfance plurilingue. Donc, et puis sur d'autres travaux de recherche. Donc, pour repréciser cette distinction, avant 7 ans approximativement, l'enfant découvre et construit le langage en tant que faculté fondatrice pour le développement intellectuel. Et l'acquisition d'une ou des langues est dite naturelle et le processus est à double face. Une face cachée, donc qui concerne la construction de la faculté du langage, et une face visible qui concerne l'acquisition d'une langue maternelle ou première, ou de langues. Donc la première phase met en place la fonction symbolique à des fins de communication sociale, l'aptitude à utiliser des signes sonores pour produire et transmettre du son à son entourage, et le langage comme faculté se construit une fois, indépendamment de telle ou telle langue acquise, dans sa spécificité de double articulation, à la fois par les sons ou les phonèmes, donc au nombre de 36 en français par exemple, qui vont s'articuler en graphème, en mots, en signes, et puis en signes, dont la liste est ouverte, hein, qui vont s'articuler en énoncés, en nombre illimité. Donc là, ce sera la place de la créativité du langage qui permet de reconnaître des énoncés inédits, qui vont être porteurs de sens et d'interaction. Donc l'acquisition bi-plurilingue avant ou après 7 ans, donc d'après les recherches, apprendre une langue avant ou après 7 ans ne relève pas du même processus. Par ailleurs, une langue ne s'installe pas au détriment de l'autre, mais deux étapes se distinguent. Donc avant 7 ans, approximativement, les liaisons entre les neurones, donc synaptiques, mises en place, permettent l'élaboration de la faculté du langage au service d'une ou de deux ou plusieurs langues, sans passer par le détour de la langue maternelle, à condition que l'environnement soit favorable. S'il y a continuité et maintien des deux langues, les deux langues vont se séparer progressivement en des systèmes différents. Donc la conscience des deux normes linguistiques arrive par ailleurs très tôt chez l'enfant. Après 7 ans, Dalgalian, rappelle que on n'apprend plus du langage mais des langues. Il a été d'ailleurs montré par imagerie cérébrale que l'équipement neuronal du bilingue précoce n'est pas le même que celui de l'enfant monolingue. L'enfant unilingue, frotté à une nouvelle langue, s'appuie sur les ressources et les modèles de sa première langue. Les sons sur les sons, les structures, le lexique, les savoir-faire acquis. Donc il s'agit, après 7 ans, d'un autre processus qui va impliquer un détour par la langue maternelle. Dans tous les cas, pour l'essentiel, donc que le profil de l'enfant soit unilingue, bilingue ou plurilingue, les compétences de l'enfance sont activées lors des nouveaux apprentissages en langue, donc qui se feront plus tard, y compris à l'âge adulte. Donc en ce qui concerne le public d'enfants ou d'élèves, les enseignants du premier et du second degré peuvent donc se trouver avec deux situations très différentes. Des enfants qui auront développé ou qui seront en train de développer leurs compétences dans deux langues ou plus dans leur prime socialisation. On parle alors de bilinguisme simultané avant l'entrée à l'école, et d'autres qui auront grandi dans une autre langue que le français avant leur entrée à l'école. Donc le français est alors langue seconde et français langue de scolarisation. On parlera alors de bilinguisme consécutif. Le langage à l'école maternelle nous rappelle la distinction opérée entre langue et langage. Ici, donc précisé langue sans S, vous le constaterez. Cependant, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de choses très intéressantes en termes de décentration dans ce texte, dans dans ces extraits des premières pages, qui justement permettent d'envisager la socialisation dans les textes en plusieurs langues. Donc, avec cette précision, hein, on est dans une langue. Là, on pourrait rajouter, on peut naître dans plusieurs langues. Les enfants, même les plus petits, et ceux qui ne parlent pas encore ou ne s'expriment pas de manière intelligible, baignent dans cette langue depuis leur naissance. La langue est un produit social et culturel, une convention adoptée par une communauté linguistique. Donc, c'est une construction humaine qui évolue dans le temps et s'enrichit de croisements et d'emprunts. Donc, cet aspect est important aussi pour la prise de conscience de la variation qui existe dans toute langue. La langue se présente comme un système d'association, etc. Alors, et l'écriture qui, pour le français, est alphabétique, donc ce qui veut dire que toutes les langues ne le sont pas, et l'usage spontané que nous faisons de notre langue maternelle nous masque qu'elle organise le monde, les données de l'expérience, d'une certaine façon qui est relative et non universelle. D'accord ? Ce passage est important. Dans la prise de conscience aussi que, justement, dans l'enseignement, on a parfois, justement, on n'a pas toujours cette conscience de l'implicite, finalement, qui est véhiculé dans la transmission de la langue, pour justement un enfant qui n'est pas d'origine francophone. Alors, sur le langage, ce texte rappelle la triple dimension du langage, psychologique, social et cognitif. Le fait que dès le plus jeune âge, un être singulier est impliqué dans une histoire, une culture et une somme d'affects. Et que, enfin, donc ça c'est la page 6, la fin de l'extrait sur le langage, une précision adressée aux pédagogues. Enfin, il convient de souligner quelques conséquences qui ne sont pas sans poser problème aux pédagogues. Beaucoup sont nés et ont commencé à grandir dans une autre langue, donc leur acquis nombreux est souvent non visible. Leurs acquis sont nombreux et souvent non visibles, sensibilité à la prosodie et à la phonologie de leur langue, premiers mots compris, énoncés, qui sont en décalage quand ils arrivent dans le monde francophone à l'aide de l'école. Leurs repères sont comme annulés, parfois même avec leur prénom qui, prononcé à la française, ne se ressemble plus. Les jeunes Français arrivant à l'école disposent, eux, contrairement à ces premiers, d'un certain nombre de connaissances de l'organisation formelle de la langue qu'ils ont pu développer dans le contexte familial. Et pour d'autres enfants, l'expérience scolaire qui commence à l'école maternelle les introduit dans une langue nouvelle qu'ils ont pu entendre dans leur entourage sans qu'elle leur ait jamais été adressée personnellement. Donc là, on fait aussi référence à un autre public francophone, mais plutôt peut-être issu de milieux justement plus défavorisé, qui va être confronté à la langue de scolarisation qui n'est pas celle qui est parlée dans les familles. Et puis cette mention à la fin, comme toute faculté humaine, le langage peut être affecté par des perturbations, du simple décalage temporel par rapport aux régularités du développement. Donc là, ce qui souligne jusqu'aux troubles spécifiques, parfois sévères et persistants. Donc là, donc cette mention qui souligne bien l'importance aussi de savoir donner du temps à l'apprentissage, sachant que tous les enfants ont des rythmes différents. Mais en particulier, ces enfants, justement, en apprentissage de la langue française, auront encore plus besoin de temps que les autres. Alors, je vais revenir maintenant rapidement sur des types de bilinguisme et puis faire le lien avec la construction identitaire de l'enfant. Alors, les chercheurs, ça, je vais passer assez vite parce que je pense que vous le savez en partie. Les chercheurs distinguent plusieurs modes de bilinguisme en fonction des conditions d'apprentissage, donc les modalités d'acquisition et les temporalités. Donc, le bilinguisme peut être enfantin ou dit précoce, ou plus tardif, simultané ou consécutif, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est aussi fonction du statut des langues respectives. Donc, le bilinguisme soustractif ou négatif relève de la domination de la langue institutionnelle et scolaire majoritaire sur la langue familiale minoritaire. Lambert, en 1974, définit le bilinguisme soustractif lorsque la première langue est dévalorisée et que l'apprentissage de la seconde entraîne la perte de la langue première. On parle au contraire de bilinguisme additif ou positif lorsque la langue familiale reste solide et pleine de vitalité. Donc les deux langues sont alors valorisées et l'élève développe les deux langues de façon équilibrée. Alors on pourra se demander qui valorise ou dévalorise les langues. Donc sans rentrer dans les détails, on pourra répondre la société, hein, donc qui accorde telle valeur à telle langue et pas à d'autres. La famille elle-même, qui, dépendamment du fait qu'elle considère sa ou ses langues d'origine comme un patrimoine culturel riche ou important, donc elles vont décider de transmettre ou pas. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu lire justement le rapport de l'INSEE d'octobre 2012 sur immigrés et descendants d'immigrés en France, sur éducation et maîtrise de la langue, où on a tout un tas de données récentes sur justement les communautés linguistiques qui transmettent, de quelle manière les langues sont transmises selon les communautés. Donc on sait que c'est la communauté turcophone qui transmet le plus, hein, où la vitalité de la langue est la plus importante, et beaucoup d'autres communautés où justement au bout de la deuxième génération il y a une perte importante de la langue d'origine. Donc je disais, la société, la famille et bien sûr l'école, hein, qui joue elle-même un rôle essentiel, hein, dans cette valorisation ou non de la langue ou des langues d'origine, et qui a son rôle à jouer à ce niveau-là. Donc, les conditions sociolinguistiques dans lesquelles se déroule le maintien et l'apprentissage des langues de l'enfant vont faciliter ou non la légitimation de la langue maternelle et la possibilité de transfert des connaissances et des habiletés dans les langues en présence. Donc là, je fais référence à la théorie de l'interdépendance de Jim Cummings, hein, si vous connaissez, c'est un chercheur donc canadien. Et plus largement, donc cela va avoir de l'effet sur la motivation à entrer dans l'apprentissage du français et des langues en général, dans les apprentissages de manière générale. Et ce matin, vous avez parlé de la question de sécurité, hein, linguistique, la sécurité de l'enfant. Donc là, on parle du coup de sécurité linguistique aussi comme facteur essentiel. Alors, quelques mots sur le semi-linguisme. Alors, certains auteurs affirment qu'une conséquence du bilinguisme soustractif serait le semi-linguisme. C'est-à-dire que l'individu finalement ne maîtrise, ou l'enfant ne maîtrise adéquatement ni l'un ni l'autre de ces deux langues. Donc cette notion à l'origine est utilisée au sujet des productions scolaires des enfants minoritaires, état de développement bilingue qui n'a atteint le niveau de locuteur natif dans aucune des deux langues. Ce terme a été abandonné par l'auteur elle-même. Les recherches au départ, hein, ces termes-là venaient, c'est un terme anglo-saxon, hein, Tukuma et Skutnap Kangas, en 76-77. Étant donné qu'il est mal défini, elle l'a jugé mal défini, mal opérationnalisé, et qu'il contenait une notion de déficit, hein, qui ne pouvait pas être observée. C'est repris dans Hammers 2005. Donc la notion est pourtant souvent encore régulièrement utilisée. Elle est, à mon sens, assez dangereuse, dans le sens où chez des enfants c'est extrêmement difficile. Elle est utilisée aussi à propos de la scolarisation du niveau de langue chez les enfants, et c'est extrêmement difficile, étant donné qu'ils sont en situation d'apprentissage, de pouvoir dire qu'ils ne maîtrisent ni l'une ni l'autre, et c'est extrêmement dangereux. Donc on pourrait souligner par exemple aussi le malentendu et la confusion qui existent souvent entre bilingue et facteurs socio-économiques qui pourront impliquer des difficultés indépendantes du bilinguisme. Donc là, c'est surtout sur toutes les représentations négatives du bilinguisme comme souvent déficit langagier et non comme atout, en fait. Donc, en termes de construction identitaire de l'enfant, la petite enfance est une période sensible, extrêmement sensible, où le sujet se construit dans sa singularité, d'un point de vue psychologique, psychique, social, identitaire, cognitif et linguistique. Donc, il évolue dès sa naissance et dès avant sa naissance au sein d'un univers de discours qui organise le monde, hein, au sein d'une communauté linguistique particulière, et qui s'inscrit au sein d'un système culturel particulier. Donc là où les langues d'accès au langage sont fondamentales car constitutives de l'homme, et sa vision du monde, sa perception de son environnement seront informées par cette ou ces langues d'accès au langage. Donc notre langue maternelle influe sur notre façon de penser et de percevoir le monde. Alors la conclusion, c'est encore celle-ci, c'est de la qualité de l'accueil de l'enfant à l'école, dans sa singularité, va dépendre son sentiment de sécurité, notamment linguistique. Alors, peut-être juste dire un mot sur les conceptions du bilinguisme et du plurilinguisme. Donc, le sociologue américain Gumperz a défini la notion de répertoire verbal dans les années 60 comme l'ensemble des variétés nationales, régionales, sociales et fonctionnelles telles qu'elles sont utilisées dans les situations de communication auxquelles l'individu ou le groupe sont confrontés. Donc, il englobe ce répertoire verbal, donc cet ensemble de langues ou de variétés, comme il englobe l'ensemble des ressources communicatives mobilisées par un sujet pour communiquer dans des situations réelles, socialement et culturellement significatives, c'est-à-dire quel que soit le degré de maîtrise qu'il en a, le statut, les fonctions et les valeurs assignées à ces langues. Donc ce qui est important, en fait, cette approche du répertoire verbal, en fait, qui nous vient de ce sociolinguiste américain dans les années 60, a permis finalement, dans ses répercussions sur les travaux qui ont suivi des sociolinguistes et des didacticiens, de dépasser finalement une vision des langues et des registres comme compartimentées, qui était prédominante alors, jusqu'alors, et donc de permettre d'envisager le bilinguisme d'une autre manière, plutôt comme un ensemble de ressources dans lequel le locuteur va puiser en fonction des significations que l'on veut transmettre. Il faut dire aussi que, en termes d'usage des langues du répertoire, les besoins de communication sont rarement équivalents dans les deux langues, et si une langue est plus utilisé que l'autre, on dira que le bilinguisme est dominant, ce qui constitue finalement le cas de figure le plus courant. C'est-à-dire qu'ici, toute cette approche va à l'encontre du stéréotype qui tend à dire que le bilinguisme est justement la somme de deux monolinguismes et de compétences en fait idéales dans chaque langue. Donc, par rapport aux synthèses des recherches actuelles, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, nous savons aussi, depuis les travaux menés par Jim Cummings dans les années 70, enfin depuis les années 70, puisque c'est quelqu'un qui prend sa retraite l'année prochaine, donc ça fait 40 ans qu'il œuvre dans cette perspective-là, que là où les langues premières permettent les transferts de connaissances vers la langue 2 et les autres langues. Donc, le développement de la compétence en langue seconde est lié à la compétence en langue maternelle au début de l'apprentissage, et les compétences sont interdépendantes. L'enfant doit développer dans sa langue maternelle une compétence langagière à un niveau suffisant, qu'on appelle un niveau seuil, pour que l'apprentissage dans la langue seconde soit facilité sur ses bases. Donc là, on parle en fait de facilitation. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas développé ses compétences dans la langue d'origine, on ne pourra pas développer les compétences en langue 2. C'est simplement de dire que il a été montré dans les recherches que c'est un facilitateur. Le mélange de langues, quant à lui, si fortement stigmatisé, y compris à l'école, se régule en réalité progressivement. Alors, un autre petit point sur la différence. Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre langage et langue. Donc là, entre savoir langagier et savoir linguistique. Il faut faire la distinction entre les savoirs langagiers qui relèvent du langage en général et qui sont acquis une fois pour toutes, ou qui sont à travailler et qui se développent une fois pour toutes. Donc je connais, par exemple, les différentes fonctions du langage. Je sais utiliser le langage pour mes besoins. Donc nommer, demander, raconter une histoire. Donc je l'apprends avec la faculté le développement de la faculté du langage, et les savoirs linguistiques qui vont relever de chaque langue en particulier et qui doivent faire l'objet d'un apprentissage spécifique chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue. Donc ça veut dire qu'effectivement on a un socle en fait d'appui hein, qui est le développement du langage, et qu'il pourra y avoir du coup du transfert. Si on a appris à lire l'or dans sa langue maternelle, bon, après, c'est si on a appris le système de politesse, donc ça, ce sont justement des la base dans la langue 1 et qui pourra être transférable dans la langue 2. Donc voilà. Alors peut-être terminer sur cette partie, en ce qui concerne la différence entre justement le développement des aptitudes qu'on va dire communicationnelles, enfin deux types de quand on apprend une langue seconde et quand on apprend aussi une langue maternelle à l'école, hein, mais disons qu'ils sont plus justement à mettre en évidence hein, chez l'enfant allophone, l'élève doit disposer d'aptitudes communicationnelles. Donc développer ces aptitudes-là, donc c'est l'aptitude fondamentale à communiquer ou la compétence conversationnelle. Donc là, on se réfère à l'utilisation de la langue dans la vie de tous les jours. C'est une langue qui est contextualisée avec la présence de gestes, de l'intonation pour appuyer la conversation, etc. Ces compétences-là, les études ont montré que les jeunes allophones vont acquérir ces compétences conversationnelles pour des tâches qui sont peu exigeantes assez rapidement, entre une et deux années, ce qui correspond par exemple à la durée de la classe d'accueil. Donc quand les enfants allophones sont pris en charge en classe d'accueil à partir de l'école maternelle primaire. Par contre, l'élève doit également développer des aptitudes cognitivo-scolaires, donc plus du coup ce qu'on appelle des compétences académiques, l'utilisation de la langue en contexte scolaire, le français langue de scolarisation. Donc là, il s'agit d'une langue qui est souvent qui est décontextualisée, plus abstraite, plus formelle, et cette maîtrise nécessite une capacité de réflexion sur la langue. Le succès scolaire, on le sait bien, repose en bonne partie sur ces aptitudes. Donc, selon ces mêmes études, les élèves allophones auront parfois besoin de 5 à 7 ans pour rejoindre le niveau de leur père du pays d'accueil sur le plan de ses compétences langagières plus exigeantes sur le plan cognitif. Donc, l'habileté à faire appel aux connaissances antérieures, à repérer la structure du texte, à utiliser le contexte, à faire les liens, à tolérer l'ambiguïté, etc., sont transférables de la L1 à la L2. Donc c'est tout ce qui concerne l'entrée dans l'écrit. Donc ce qui revient à dire que plus on aura travaillé l'oral et plus on l'aura fait tôt, plus on va être capable de développer l'écrit. Donc voilà. Le deuxième point de cette première partie donc concerne les implications pédagogiques et la question de la formation du personnel éducatif. En sachant encore une fois que je viens des sciences du langage et pas des sciences de l'éducation, que je découvre le terrain. Mais donc là, pour reprendre Simon et Moreau 2011, essentiellement inclusif, le paradigme plurilingue conceptualise l'accueil et la reconnaissance des langues et cultures, maternelles et secondes, d'un sujet, quel qu'en soit le degré de maîtrise, et fait de la diversité une ressource, une richesse pour l'individu et pour la société. Donc cette citation me permet de rentrer dans cette partie et de faire la synthèse finalement de cette première sous-partie. Donc là encore, dans les textes qui sont proposés par l'institution, dans les derniers rapports, des jalons essentiels ont été posés ces dernières années concernant la maternelle et concernant l'oral, par exemple. Donc, dans cet extrait du langage à l'école maternelle encore, dans la partie 5, hein, concernant justement ces donc qui est un chapitre qui est adressé justement à la prise en charge des enfants allophones. Donc, la reconnaissance de la langue maternelle, le développement des compétences de l'enfant dans cette langue ne sont pas préjudiciables à l'apprentissage du français, bien au contraire. L'apprentissage d'une langue seconde est facilité si l'enfant possède dans sa langue maternelle ce que nous appelons le langage des vocations. Il importe d'informer les familles de l'importance et de la nécessité de la communication dans la langue de la maison et de développer par tous les moyens possibles les acquis des élèves dans leur langue première. Donc ça, c'est vraiment un extrait extrêmement important, hein, quand on sait qu'on voilà, on entend encore des injonctions des enseignants parfois justement qui incitent les parents à ne plus parler la langue d'origine dans la famille. Donc ces enfants non francophones ne doivent pas être regardés comme des élèves en difficulté. Ils ont des capacités, des acquis équivalents à ceux de leurs camarades, donc à ne pas être regardés comme des élèves en difficulté d'emblée. Hein, ils sont justement en apprentissage d'une langue seconde, notamment quand ils arrivent tout petits et qu'ils ont parlé jusqu'à présent leur langue familiale à la maison. Donc ils ont des capacités, des acquis équivalents à ceux de leurs camarades. Il leur reste à apprendre la langue de l'école pour les faire reconnaître. Si cette différence ne peut être réduite, alors il faudra voir ce qui fait obstacle et où peuvent être les sources de difficultés. Mais dans un second temps, si on voit que les difficultés apparaissent et non pas persistent. Donc voilà. Alors, là, c'était juste des questionnements à partir de ces réflexions-là. C'est à partir de quand et comment peut-on diagnostiquer qu'un enfant est en difficulté, justement ? De quel type de difficulté parle-t-on ? Puisque c'est des... Là, j'insiste sur cette histoire de difficulté parce que je ferai le lien tout à l'heure avec la partie dynamique de la recherche en Franche-Comté actuellement avec les enseignants. Et cette ce thème de difficulté revient en permanence en fait dans les discours. Alors voilà, de quelles difficultés parle-t-on ? Des difficultés langagières, des difficultés scolaires, des troubles du langage réel, des troubles du comportement, des enfants d'enfants en souffrance. Est-ce qu'on doit penser en termes de réussite scolaire à la maternelle ? Donc il y a, à mon avis, nécessité de complexifier le regard de l'enseignant sur ces différents types de profils d'enfants, de parcours liés à ce qui est appelé la difficulté langagière ou scolaire, et pour permettre aussi aux enseignants d'adopter une posture moins anxiogène que l'on trouve parfois dans les classes, notamment de maternelle, face à des enseignants qui sont démunis par rapport à ces enfants qui arrivent. Voilà, là je parle de l'expérience que j'ai pu voir et des conversations que j'ai pu avoir avec des enseignants, surtout de petites sections. Après, on dira que souvent ça va mieux, mais à l'arrivée des enfants en petites sections, c'est souvent très très compliqué. Alors voilà, des enfants en processus normal d'apprentissage d'une langue seconde et de construction de développement langagier bilingue, des enfants en souffrance, en difficulté d'adaptation, pour qui la rupture avec le milieu familial est trop brutale et qui développe souvent, parfois, en tout cas, des comportements de mutisme, des enfants en réel trouble du langage, des enfants avec des troubles du comportement, des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Tout ça est extrêmement compliqué à déceler, surtout avec des enfants qui, au départ, effectivement, ne parlent pas du tout. Alors là, c'est un extrait d'un entretien que j'ai pu réaliser l'année dernière avec un rééducateur dans le Haut-Doubs, donc sur ces questions de mutisme, puisque justement, lui, dans le dispositif du RASEP, dans la circonscription à laquelle il est rattaché, avait un certain nombre d'enfants qui lui étaient adressés, allophones, nés souvent en France, et ou pas. Qui justement développait des troubles, enfin développait en fait un mutisme à l'école. Donc juste un extrait, les questions de mutisme, c'est pas seulement les enfants allophones, mais les enfants allophones se montrent à l'école souvent en état inhibé. D'après ce que je vois de mon expérience, c'est souvent qu'ils ne s'autorisent pas dans l'oser faire plutôt qu'un manque de compétences ou même de connaissances. Quand ils s'autorisent un peu plus à parler, le champ des mots s'ouvre. Donc là, c'est tout un travail que justement l'équipe va relayer auprès des enseignants pour parvenir justement à ce que l'enfant réussisse à s'autoriser à parler dans le cadre de l'école. Alors elle, la maîtresse, voit un enfant qui est malheureux, qui est dans son coin, qui sourit jamais. Elle aussi, elle, on voudrait qu'il sourie, qu'il soit heureux à l'école, qu'il joue avec les autres, qu'il parle avec les autres, parce que la demande d'aide, c'est pour l'enfant. Mais quelque part, c'est aussi pour l'enseignant qui nous dit, avec cet enfant, j'y arrive pas, j'ai du mal. Donc ça, c'était un entretien très très riche qui a fait prendre la mesure en fait du travail que effectuaient en fait ces équipes en fait du RASED en soutien des enseignants justement face à la prime scolarisation en fait hein, de ces enfants allophones. Alors. Donc voilà, pour reprendre aussi rapidement donc le rapport annuel des inspections générales 2009 un extrait du chapitre 5 sur les enfants de la maternelle concernant justement les enfants alors plutôt enfants allophones nouvellement arrivés. Mais moi je pense qu'on pourrait étendre aux enfants allophones nés en France. Donc si l'immersion est un principe à privilégier en maternelle, elle ne saurait avec des ENAF se limiter à une immersion passive, à une simple imprégnation linguistique. Pour être productive, elle doit être active, couplée à des mesures d'ordre didactique et pédagogique. Face à cet objectif langagier existant, les enfants nouvellement arrivés en France ne sont sans doute pas dans une situation très différente de tous leurs pères du même âge nés en France, et vivant dans des milieux où la langue familiale ou maternelle n'est pas le français. Donc là, on mentionne que des académies ont déjà mis en place une série d'actions donc à l'égard de ce type de public-là. Enfin, j'ai trouvé alors cette mention, donc c'est la seule mention dans les programmes de l'école maternelle, donc dans le tableau des progressions des apprentissages à l'école maternelle, une mention que à l'école maternelle, concernant les enfants allophones, les écarts d'âge entre les enfants, dont de développement et de maturité, ont une importance très forte. Le fait que le français soit ou non la langue de la famille influe également sur la vitesse des acquisitions, et les décalages entre enfants d'une même section ne sont pas en général des indices de difficulté. Donc là, il y a une petite mention dans les textes de maternelle à ce sujet-là. Et que les différences doivent être prises en compte pour que chacun progresse dans son développement personnel. Donc voilà. Donc la question morale à la maternelle est très comme le rapport ministériel de Madame Bouys 2011, le rapport ministériel souligne que la question de morale doit être réaffirmée à la maternelle, mais donc elle doit être doublement réaffirmée en ce qui concerne la prise en charge de la scolarisation de ces enfants-là. Donc, d'ailleurs, le rapport souligne, dans la partie sur l'oral, que, en préalable, la mission souhaite souligner que les observations effectuées dans des milieux où les enfants de familles non francophones sont majoritaires ont été trop peu nombreuses pour que des conclusions puissent ici être tirées. Il conviendrait qu'une étude approfondie soit menée sur de telles classes où l'effet du nombre s'ajoute aux caractéristiques linguistiques à prendre en compte. Donc là, effectivement, c'est vrai que, comme vous l'avez bien mentionné, comme il a été mentionné ce matin, il y a encore relativement peu d'études dans le cadre des classes, notamment où justement il y a une forte concentration aussi de ce type d'enfants. Donc là, je pense, tout à l'heure je vais en parler, donc à certains endroits en Franche-Comté comme dans le Jura, où dans certaines classes on arrive à 80% d'enfants d'une même communauté en fait dans les classes. Et là, effectivement, c'est très problématique pour les enseignants et pour les enfants et pour l'acquisition de la langue française. La question de la formation. Je vais en arriver en fait à la dynamique en cours dans l'Académie de Franche-Comté. Donc là, juste pour vous situer un petit peu la localisation. Donc c'est le point de départ de ces recherches ont émané en fait d'une problématique commune manifeste chez des équipes enseignantes, surtout d'écoles primaires en Franche-Comté, autour de justement comment faciliter l'entrée des enfants allophones dans les apprentissages et dans le langage, et se sont accompagnées de demandes de formation conjointe auprès du CASNAV de Besançon donc depuis 2011-2012. Donc la nécessité, en fait, on a d'abord mobilisé un ensemble d'outils d'ordre macro contextuel, donc sociologique, sociolinguistique, historique, démographique, etc., pour essayer d'éclairer le micro-contexte didactique, donc plutôt les pratiques de classe et les outils didactiques. pour documenter en fait hein, de manière fine le contexte. Donc l'institut, il faut dire que la situation institutionnelle était plutôt favorable au développement de ce projet de recherche action. Et donc je vais assez vite et que du coup une série de pistes de recherche ont été élaborées autour de la langue, de la perception du rôle de l'école maternelle et puis de la recherche en didactique du plurilinguisme comme outil majeur en fait dans un contexte professionnel de formation continue destiné à l'ensemble des professionnels. Et puis donc voilà, donc là une série de ça c'est la série de recueils de données qui a d'abord été envisagée. Donc un certain nombre de rencontres, de réunions, d'entretiens semi-directifs réalisés avec tout un ensemble de partenaires. On a travaillé surtout et on travaille encore surtout avec deux équipes. Des observations de classe maternelle un stage d'étudiante de Master 2 qui a pu réaliser l'année dernière son stage dans une école en moyenne et grande section. Ce qui est important, c'est l'implication justement des différents acteurs dans le processus de recherche-action. Alors, toute une série d'actions a été mise en place depuis 2012. Et qui continue. Alors, un plan d'animation pédagogique qui a été validé par les IEN de circonscription, d'autres qui sont en cours, des médiations école-famille qui ont été inaugurées, expérimentées, des séances de des échanges de pratiques en fait en termes de création d'outils pédagogiques, alors à partir d'imagier, de livres plus bilingues, de sacs d'histoire au CRDP de Besançon, donc avec la présence d'une éditrice en fait qui édite du matériel plurilingue. Un déplacement l'année dernière, en octobre dernier avec une équipe de 25 enseignants en fait de la région dont j'ai parlé pour une journée d'études qui s'est passée à l'HEP du canton de Vaud et donc qui a pu être aussi un moment très intéressant d'échange de pratiques avec ce qui se passait justement à Lausanne. On a pu aussi visiter donc échanger avec le CREAL qui est l'équivalent en fait du CASNAV du canton de Vaud. Des séances bilan en fait de toutes ces animations, tout ce processus de recherche qui ont été faites. Et puis là, la prochaine date, c'est justement le 29 janvier, donc une journée d'études réservée aux enseignants, mais ouverte à tout le monde, sur la diversité linguistique et culturelle à l'école primaire. Vous pouvez encore vous inscrire, les inscriptions sont encore ouvertes. Et donc là, ce que je vais terminer. Alors, ce que je voulais dire peut-être donc en conclusion, c'est que effectivement tout ce travail qui est mené avec les équipes enseignantes ont permis de voir une dynamique de recherche, une dynamique de création, de réflexion était en route. Donc certains enseignants ont été confortés dans leurs convictions sur des pratiques qu'ils n'osaient pas mettre en place, mais donc ils ont été légitimés dans leur démarche. D'autres sont encore en grande insécurité et en demande d'outils pédagogiques concrets, en fait, adaptés aux enfants allophones. Donc la médiation famille-école est apparue comme quelque chose d'essentiel, donc qui commence à être mise en place, qui a du coup été relayée, remis en place à la rentrée dernière pour améliorer la formation de l'accueil à l'école. Je cherche juste ma petite fiche. Là, les perspectives en fait concernent justement donc après un bilan de travail qui a été plus assez positif, mais les perspectives de travail maintenant vont plutôt concerner la mise en place, de stratégies pédagogiques. C'est la demande en fait qui a émergé, des stratégies pédagogiques concrètes en termes de pratiques de classe. C'est une première demande donc d'élaboration en fait de travail sur des séquences pédagogiques concrètes, par exemple autour de l'oral, notamment autour de l'oral bien sûr. Et puis la deuxième demande qui a émergé récemment, c'est justement le souhait de de favoriser les échanges de pratiques entre équipes enseignantes des différentes circonscriptions. Donc ça, on a justement, ça a été l'occasion de le faire lors de la journée à Lausanne, finalement, puisqu'il y avait trois équipes qui étaient présentes, finalement. Et ce sont les mêmes équipes qui sont présentes dans le dispositif depuis le début. Mais voilà, donc c'est un souhait très fort de pouvoir échanger les pratiques, de pouvoir échanger tous les projets qui sont en train d'émaner, d'émerger et d'être expérimentés en termes d'accueil, de parentalité, d'accueil des parents, d'éveil aux langues, de didactique du plurilinguisme, etc. Donc ça c'est... voilà, bon bah j'aurais d'autres choses à dire, mais je crois que ça va suffire.